Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Tu aimes les crevettes?
Nous consommons chacun 2 kilos de crevettes par an.
La saison de la crevette est courte sur nos côtes. Elle ne dure que 5 mois dans l'année.
Ces petites crevetteries, tout simplement, ça c'est de la production française.
99% des crevettes sont importées, principalement d'Équateur.
La pêche à la crevette, c'est dur.
Additif non scientifique de l'espèce, zone de capture, mode de production ou de pêche.
Et là, il faut faire très attention parce qu'il y a crevettes, crevettes et crevettes.
Oui. Des crevettes d'Équateur assaisonnées au sel de Noirmoutier. Certains emballages entretiennent l'ambiguïté.
Elles sont fraîches, celles-là.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster le menu du jour. C'est la crevette, le premier crustacé consommé en France. Bien avant la langoustine, le tourteau et le homard, 100 000 tonnes par an, ça fait du monde. Le problème, c'est qu'entre les crevettes sauvages et celles d'élevage, les grises et les roses, les crevettes de chez nous et celles de l'autre bout du monde, les crues et les cuites, les bouquets et les gambas, le consommateur navigue un peu en eau trouble. On va tenter d'y voir plus clair dans ce monde pas toujours très rose de la crevette, avec notre spécialiste en matière de poissons et de produits de la mer, c'est Charles Guiriec. Bonjour.
Ravi de revenir à l'antenne des crevettes.
Absolument. Vous avez fondé Poiscaï, le circuit court de la mer. Vous proposez aux particuliers des casiers de la mer, l'équivalent marin des paniers de légumes.
Partout absolument.
Tout à fait. Comment sont élevées et pêchées les crevettes que nous consommons? Existe-t-il encore une crevette française, une crevette éthique? Comment la cuisiner? On répond ensemble à toutes ces questions, sachant que là, vous avez sorti l'artillerie lourde. Il y a la plaque de cuisson dont on va déguster. Il y a les
toutes
poêles,
les
casseroles. Ça boue dans tous les sens.
United on va Colors of Crevettons.
C'est ça. On va se régaler de très belles crevettes. Et justement, une belle crevette française élevée avec éco-responsabilité dans des bassins ostréicoles de Charente-Maritime. On va voir que c'est possible. Notre reporter Stéphane Combe enfile ses cuissardes et plonge dans les clairs de la ferme marine d'Artouan pour pêcher la crevette des marais. Vous la connaissez,
oui.
Le reportage de Stéphane Combe dans le courant de cette émission. 2 chroniqueuses pour m'accompagner tout au long de cette émission. Notre chroniqueuse historique, Elvira Masson. Notre chroniqueuse vin, Justine Knapp, qu'on est ravis d'accueillir à nouveau au micro dont on va déguster. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour à toutes
Bonjour.
Et tous.
Elvira.
Je vous parle de la crevette de mes 20 ans. Oh, sans aucune nostalgie.
C'était hier. C'était évidemment hier, la crevette de vos 20 ans. Tiens, c'est intriguant. Justine.
Oui, on goûtera aujourd'hui un vin produit loin du littoral, mais qui sale quand même le palais.
Et qui pourrait bien accompagner de belles façons les crevettes de Charles Guiriec. Vous avez sans doute des questions, des remarques, des recettes sur la crevette à la maison. Pour interagir dans l'émission, le mail on va déguster à radiofrance.com ou bien le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. Toutes nos émissions, nos chroniques, nos infos, nos recettes, nos podcasts sont à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Juste avant de plonger dans le monde de la crevette, on va y venir évidemment un petit coup de cœur pour une adresse où j'ai eu la chance de m'attabler cette semaine. Je suis allé à Bayonne, département des Pyrénées-Atlantiques. Bayonne avec un B comme basque et avec un B comme Bacha. Alors, ça s'écrit Bassa, B-A-S-A, mais ça se prononce Bacha et ça signifie, en langue basque, sauvage. Tiens, ça va plaire à notre ami Charles Guiriec. Nous sommes dans le vieux Bayonne, au pied de la cathédrale Sainte-Marie, et c'est dans les volumes spectaculaires de l'ancien tribunal de commerce que s'est installé, en octobre 2020, une brasserie autoproclamée équitable. Et je peux vous assurer qu'on est très loin du greenwashing, mais dans une démarche puissamment engagée. Le couple qui est derrière ce projet, c'est Fabien Feldman. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Elvira?
Tiens. C'était un invité d'une émission à Biarritz il y a je ne sais plus combien d'années.
Oula, vous avez bonne mémoire, hein, 2015.
Et il était d'origine allemande.
Et absolument.
Il avait un bistrot à Biarritz, dont j'ai oublié le nom.
L'Impertinent. Et c'est même
voilà.
Plus qu'un bistrot, parce qu'il avait une étoile Michelin.
Bien sûr,
mais on s'y était régalé. Vous avez absolument
génial.
Raison. Et bien là, figurez-vous qu'il a toujours son restaurant L'Impertinent à Biarritz. Mais avec sa femme basco-béarnaise Sarah, eh bien, il a ouvert cette brasserie équitable à Bayonne. Alors c'est pas compliqué. Tout est juste dans cette brasserie. Juste sur le décor sobre et contemporain à base de matériaux bruts. Juste sur les matières premières en cuisine sourcées français à 90% dans un rayon de 150 km de Bayonne, biologique à 85%, juste sur l'engagement avec du pain au levain bio, qui est fait maison, des salaisons maison, des cochons quintoa qui arrivent entiers pour que rien ne soit gaspillé sur la carcasse, juste dans les relations sociales avec les employés, et là on voit qu'ils ont l'air particulièrement impliqués et épanouis dans le projet, juste également sur les prix avec un menu déjeuner, entrée, plat, dessert à 23 €, qui est vraiment d'un prix juste justement. Et juste dans l'assiette avec une belle cuisine de saison, généreuse, réconfortante, j'ai dégusté, figurez-vous, l'un de mes poissons préférés, un merlu de ligne de Saint-Jean-de-Luz pour deux. Il pesait environ 950 grammes. Le merlu, Charles Guerrier, vous nous en dites un mot, vous confirmez que
nous, c'est un poisson, c'est emblématique, le fleuron de nos casiers, hein. Exactement, pêché à la ligne, c'est hyper bon. Attention quand même en ce moment, parce qu'on trouve pas mal de parasites dans les merlus. Donc ne pas jouer au ceviche de merlu, merlu cru. Par contre, bien cuit, même un peu plus de 100 degrés, c'est parfait. C'est magnifique.
Les stocks se portent bien.
Les stocks se portent très bien, mais par contre, il faut le pêcher à la ligne plutôt, et bien le payer aux producteurs, ce qui, je pense, est le cas chez Bacha.
Ah ouais, ça, je peux vous l'assurer. Le chef l'a cuisiné, justement, plutôt bien cuit, à l'espagnol, vous savez, avec de l'ail frit, un petit déglaçage au vinaigre de cidre, une touche de piment, de l'huile d'olive. Il y a une petite liaison qui opère comme ça avec le collagène du poisson. Absolument magnifique. Il fut levé à table par une serveuse accompagnée d'une délicieuse purée de pommes de terre bio. Vraiment, un super resto. Et en dessert, un petit riolet. Lait local, évidemment, biologique, avec de la crème fouettée, très peu sucrée, un petit caramel, nougatine aux amandes.
Ça vraiment,
je me suis régalé. C'est super. À table.
On va retourner voir les producteurs.
Chez Bacha, c'est ouvert 7 jours sur 7. Juste fermé le dimanche soir, donc ce soir. Formule déjeuner valable du lundi au vendredi. Bacha, le restaurant de Sarah et Fabien Feldman, 74 rue d'Espagne à Bayonne. Passez-leur le bonjour de la part dont va déguster. C'est Laurent Thomas qui réalise l'émission avec Adèle Caglar. Fabrice Rivaud pour la préparation, la coordination, la page internet de l'émission. C'est la fête à la crevette, juste après Dodinine de la chanteuse américaine d'origine haïtienne Leila Makkala. Bon appétit sur France Inter.
La le police hispan volé l'obéia. Nos papi timi qui sont gâtoyés. Mais c'est sous ton yoshita. Y'a ton dîner. Ton dîner, mon copé, wa ton dîner. La rale chaise la wa va casser. Ton dîner, mon copé, wa ton dîner. La rale chaise la wa va casser.
Elle peut être rose, grise et parfois bleue, bouquet ou gambasse, bretonne, méditerranéenne ou de Madagascar. C'est la crevette. Je vous fais une confidence, Charles Guerrier. En préparant cette émission, je me suis dit, oulala, mais quel sujet compliqué. On s'y perd entre les couleurs, les appellations commerciales, les tailles, les provenances. Comment pourrait-on, sans semer nos auditeurs, présenter cette espèce bestiaire à antenne. Déjà, est-ce qu'on pourrait dire une première chose, c'est le fait que toutes les crevettes dont on va parler appartiennent au même ordre, celui des décapodes. Hein.
Les décapodes, voilà, les crustacés, cousins, des crabes, des homards et autres.
Des cas 10, hein.
Des cas 10, exactement.
C'est-à-dire alors après, on va 10
pas,
patins.
On va pas descendre dans toutes les appellations, il y en a un peu dans tous les sens.
Et on va éviter les noms latins, c'est ça que vous dites?
Voilà. Ce qu'il faudrait commencer par comprendre, c'est que toutes les crevettes, quand elles sont vivantes, elles sont à peu près transparentes, plus ou moins opaques. Certains ont un peu des reflets, etc. Mais les appellations de couleurs, elles arrivent en fait beaucoup plus tard. C'est quand on les cuit qu'il se passe quelque chose. Et c'est là où la plupart des crevettes vont devenir roses. Donc ça peut être d'un blanc très pâle, voire quasiment pas de rose, pour les fameuses crevettes de l'estuaire de la Gironde, les esquilleurs qu'on cuit à l'anis étoilé, jusqu'à un rose très vivace, comme on peut avoir là dans des milieux plus riches en algues, où là on va avoir des crevettes d'un rose pétant, on va dire. Pareil pour ces crevettes tropicales, elles ont souvent les mêmes couleurs. Et après, alors on parle de la crevette grise, qui est un peu une exception, qui elle, quand elle est cuite, elle est plutôt marron. Et puis après, on vous parle de crevettes bleues, noires, etc. Ça, honnêtement, à la base, c'est à peu près tous la même. Elles ont des petits reflets qui permettent de les différencier sur le marché.
C'est ça.
Donc, on est surtout sur des crevettes roses. Et après, il y en a pléthore.
Et après, il y en a pléthore, beaucoup de crevettes. Là, vous nous avez apporté de très beaux échantillons. On fait un petit inventaire rapide.
Ben, on commence par les gambasses, les fameuses gambasses des marais charentais. Mais la française, c'est quand même celle-là. Alors, le bouquet, quand elle est grosse, crevette rose. On a la crevette
la
grise ici.
La vraie française, c'est le bouquet.
Alors, on revient sur le bah sujet du bouquet.
Mais ça y est, ça commence à se complexifier parce que, précisément, l'appellation bouquet, qui est une appellation beaucoup plus commerciale, en fait, hein, que scientifique.
Tout à fait.
Bah là, justement, c'est le trou noir, la confusion. C'est-à-dire que, on a tendance à prendre le bouquet pour ces toutes petites crevettes de Bretagne qui frétillent sur l'étal du poissonnier, qu'on jette dans la poêle avec une noix de beurre et qu'on mange entière.
On voit des cartes avec bouquet de crevettes. Alors, voilà. En plus, ça mélange encore plus parce qu'on les met toutes ensemble et donc on a l'impression qu'on va avoir, mais en fait,
bah alors, cette appellation bouquet.
Bouquet, à la base, vous êtes pêcheur à pied, vous attrapez des crevettes roses dans les cailloux, dans les flaques, et puis il y en a certaines qui sont plus grosses que d'autres. Donc en gros, quand une crevette rose va faire la taille, la largeur de deux doigts de votre main, un bouquet va prendre toute la paume.
Donc en fait, donc c'est juste une grosse crevette.
C'est une grosse crevette rose française à la base, enfin ou en tout cas de nos rochers bretons, vendéens ou normands. Et après, en fait, on a utilisé cette appellation de bouquet pour la calquer à ces crevettes tropicales. Qui sont grosses et donc on a dit c'est des bouquets. Mais en fait, faut pas acheter un bouquet en croyant qu'on achète uniquement une crevette française. Parfois, on achète une crevette tropicale. Ça arrive, tiens, sur le bassin d'Arcachon, ça m'est arrivé d'avoir des bouquets. Mais en fait, c'est des grosses gambasses de Madagascar. Alors ça fait lien vers le terme gambasse, qui lui originaire d'Espagne. Je pense que c'est surtout une crevette un peu plus grosse que les autres. Mmh. Et là-bas, le sourcing, il est plus et les pêches sont plutôt sur des crevettes plus grosses que chez nous. Donc on a utilisé le terme gamba ou gambas. Et aujourd'hui, personnellement, moi, dans mon vocabulaire, je dis une grosse crevette, une gamba, c'est forcément tropical. Alors on a une exception avec ces crevettes élevées dans les marais charentais, mais qui sont des crevettes tropicales qu'on a rapportées, qu'on élève en extensif, qui sont pas natives. Mais on a encore une exception. L'autre jour, j'étais à Bastia.
Allez-y.
À Bastia, je tombe sur des crevettes de l'étang de Biguia.
Oh là là, attendez, faut quand même que je raconte. Hein. Il m'a envoyé un SMS, mais vous étiez comme l'enfant au pied du sapin de Noël.
Ouais, c'est plus ça. Beau jour de sa vie.
À un prix défiant toute kilo, concurrence. Alors, on va pas trop déflorer le plan, mais en gros, ça se passe le matin très tôt au marché de Bastia.
La poissonnerie est un peu cachée en plus, donc il faut oser rentrer. Et moi, j'avais un peu cet a priori de me dire, mais est-ce que ça en est des vrais et tout. Bah non, c'est le pêcheur qui est là.
Où sont-elles?
Qui vous en vend. Elles sont là, elles sont un peu plus petites.
La caractéristique,
c'est qu'elles ont des antennes un peu plus longues. Là, j'en ai des crues. La différence, c'est qu'elles vont avoir les bords de la queue rouge un peu, alors que celles de la ferme marine d'Arton, des marais charentais, sont plutôt bleutées.
Là, on parle d'une crevette donc bastiaise, a fortiori méditerranéenne, sauvage, évidemment.
Tout à fait.
Preuve qu'il existe encore en Méditerranée des crevettes.
Oui, il existe encore en Méditerranée des crevettes, surtout pêchées malheureusement parfois au chalut. Mais honnêtement, autant manger des crevettes vivantes, fraîches, françaises, que d'aller faire venir ces gambas qui viennent un peu de partout dans le monde. Donc, le conseil, c'est juste acheter des crevettes si vous les trouvez vivantes sur un marché, sautez dessus.
Les fameux gamberoni rossi de la baie de Gênes, hein, par exemple.
Tout à fait.
Mais il y a également, donc, de l'autre côté en Espagne, bah, les gambas.
Exactement, pêchés au casier assez profondément. On en trouve même aux Canaries, aux Açores. Dès qu'il y a du caillou, en gros, on va trouver un moment de la crevette. La crevette grise fait un peu exception parce qu'elle vit plutôt dans le sable. Et elle, on va plutôt la trouver sur les côtes du Nord, Donc, à partir du Cotentin jusqu'en Belgique, c'est les Pays-Bas qui sont les plus gros fournisseurs de crevettes grises en France. Ils en fournissent quasiment 17 000 tonnes. Là, quand nous, on en pêche 500 tonnes. Ouais. C'est que du chalut. Non, il y a une belle pêcherie à cheval à la frontière belge, enfin à la frontière franco-belge. Là. Mais c'est vrai que là, la crevette grise, on n'a pas trouvé, nous, chez Poiscaille, encore de pêcheurs à pied. C'est un appel. S'il y a des pêcheurs professionnels qui pêchent la crevette grise à pied.
Au cheval.
Ou au cheval.
Il paraît que ça existe encore, mais que c'est très rare.
C'est folklorique.
On essaie de se renseigner là aussi. L'enquête est tout à fait complexe. Petite question, et beaucoup d'auditeurs nous la posent, à partir de quelle taille une crevette devient gambasse ? Est-ce que là, c'est à l'appréciation de chacun ?
Exactement, c'est vraiment à l'appréciation. Faut juste être lucide que voilà, une gambasse ou une crevette tropicale va être tout de suite beaucoup plus grosse. Même le plus gros des bouquets sera plus petit que la plus petite des gambasses.
C'est ça.
Donc voilà, dès que vous avez une grosse crevette dans l'assiette, il y a de fortes chances qu'elle vienne de l'autre bout du monde, d'autant plus si vous l'achetez cuite, donc déjà rose.
On a compris que la crevette française sauvage était vraiment confidentielle, assez exceptionnelle.
C'est des petites productions.
D'un certain prix, donc c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan de crevettes que l'on consomme chaque
année. 1000 tonnes en France sur les 100 000 tonnes importées, quoi, à peu près, on va dire. Toute espèce cumulée, je dirais.
En un mot, Charles Guerriec, l'état des stocks sur la façade atlantique ?
On le connaît pas bien. Il est peu suivi. Ce qui est embêtant plutôt, c'est la dégradation des milieux. Avec justement la perte des herbiers, l'ensablement, donc les plages, on met du sable pour accueillir les touristes l'été, mais en fait les cailloux, les flaques se comblent, et c'est là où on a perdu des productions. Donc un petit message, juste demander à vos élus d'arrêter de mettre du sable plein les plages avant l'été, posez vos fesses sur les cailloux et allez pêcher les crevettes plutôt que de bronzer,
et
vous aurez plus de crevettes dans le futur.
Et le message général de toute façon de cette émission, c'est que quelle que soit la crevette que l'on consomme, et a priori plutôt la crevette française sauvage, on y va de toute façon raisonnablement.
C'est ça, et plutôt arrêter de manger ces grosses gambasses importées pour aller réserver son budget à ces petites affaires. Voilà, ce matin sur le marché à Bassis, c'était 90 euros le kilo. On en achète 200 grammes, on se fait plaisir, mais par contre, on ne s'achète pas les crevettes dans les sushis, on en mange 10 kilos pour 5 euros.
Dans la deuxième partie de cette émission, on va s'intéresser évidemment à l'envers du décor de ce marché mondial de la crevette, et on va voir que ce n'est pas très reluisant, mais pour l'instant, intéressons-nous à une magnifique crevette française. Alors, elle est d'élevage, mais on va comprendre en quoi elle est vertueuse. C'est la crevette impériale, qui est élevée depuis le début des années 2000 dans les bassins ostréicoles de Charente-Maritime. Elle s'entend très bien, cette crevette, avec l'huître, et on va comprendre pourquoi. Direction la ferme marine d'Artouan, tenue par Ingrid et David Hervé à
Ingrid et David Mercier.
Mercier, pardon.
Pas Hervé.
À Saint-Just, Luzac, merci pour la précision, Charles. Nous sommes au cœur du bassin Marennes-Oléron en Charente-Maritime. Notre reporter Stéphane Combe s'aventure dans une claire pour pêcher cette reine des marais.
Si tu vois que tu commences à... Tu plantes.
Ah, c'est, okay. C'est une canne. Et pour me tenir dans l'eau, ça colle un peu au pied.
Tu décolles d'abord le talon.
Alors là, on est au milieu du bassin. Et là, David, vous avez pris une espèce de...
Ça s'appelle un verveux.
C'est un filet circulaire qui est immergé.
Le filet droit se termine en nasse, avec des anneaux qui se rétrécissent. Et les crevettes sont prises dedans et ne repartent pas dans l'autre sens. Et du coup, nous, on vide le cul du filet, le fond du filet. On achète des post-larves, des petites crevettes, qui ont entre 17 et 22 jours en général, qui font moins d'un centimètre de longueur. On les introduit directement dans la claire. On les achète à des écloseries, il y en a deux en local.
Mais ces crevettes impériales, elles viennent d'où à l'origine ?
À l'origine, elles sont des environs du Japon. Elles ont été introduites en Charente-Maritime il y a une vingtaine d'années. Nous, on considère qu'une claire, c'est un écosystème. Même si on a...
Un bassin comme celui-ci, c'est un écosystème.
Ouais. Chaque claire est un écosystème indépendant de la claire d'à côté.
Et alors, dans ce bassin d'eau salée, en fin de compte, là, il n'y a pas d'huîtres.
Là, si, il y a les huîtres et les crevettes en même temps. Elles sont immergées, elles sont soit dans des paniers, soit à plat directement sur le sol.
Et donc, les crevettes sont plutôt sur la gauche.
Non, les crevettes, elles se baladent partout. En fait, c'est des crevettes qui cherchent leur nourriture dans la vase la nuit. Elles se nourrissent de proies vivantes qui sont dans la vase. Petit verre. Et aussi de petits crustacés qui se trouvent principalement dans la vase. Donc elles passent leur nuit à fouiller le bassin pour trouver leur nourriture. Et c'est pour ça que le matin, quand on arrive très tôt, on voit l'eau qui est très foncée, très opaque, parce qu'en fait elles ont remis énormément de matière en suspension, des nutriments dont se nourrissent les huîtres. On pêche les crevettes, moi je les trie par taille, et on les met dans des petites caisses pour les stocker, le temps qu'elles dégorgent. Là, une crevette comme ça... Ça fait presque 20 cm, ça fait 30 grammes. Elles sont comme beaucoup de crevettes tropicales tigrées. Hein. plus ou moins marron, ça dépend. Il y a des nuances de marron qui sont un peu plus foncées ou un peu plus claires.
Quand on regarde, elles ont aussi la couleur de la claire. J'aime bien appeler ça couleur du miroir. Regarde, même dans le ton des herbes, les crevettes se fondent dans le paysage. C'est vraiment un élément, un ensemble, tout en symbiose.
T'as vu la longueur des antennes ?
Les antennes sont plus longues que le corps de la crevette.
Et au Japon, quand on pêche des crevettes avec les antennes intégrales, comme ça, c'est signe que de bien-être de l'animal, parce qu'elle n'est pas stressée, il n'y a pas trop de densité d'élevage.
Il faut que l'eau soit salée, bien sûr, pour ces crevettes impériales. Mais quelles sont les autres particularités
chaudes ? Il faut qu'elle soit chaude.
C'est-à-dire là, elle est à 17-18 degrés ?
Oui, l'été, on monte à 24-26. Et l'hiver, bon, bah, on descend beaucoup plus bas, 5-6 degrés. Là, c'est la fin pour les crevettes. Donc, il faut qu'on les pêche avant cette période-là, impérativement. Bah, on ne pollue pas, déjà, c'est bien. On n'a pas de moyens ni électriques ni mécaniques pour venir dans l'eau. On peut enrichir le milieu avec des granulés, de la nourriture à poisson. Ce n'est pas dans nos pratiques, voilà. Ça permet d'augmenter la productivité, c'est sûr. Mais bon, on n'a pas cherché cette voie-là.
Du coup, je vais chercher d'autres caisses ou pas ?
Non.
La crevette impériale des marais d'Ingrid et David Mercier. Hein, on est bien d'accord, merci. Je disais David Hervé, je confondais avec un ostréiculteur dont je connais aussi le travail.
Aussi des crevettes.
Absolument, ouais. La ferme marine d'Artouan. C'est intéressant cette coopération entre l'huître et la crevette.
Et surtout, ce qui est le plus intéressant, c'est que là, on est sur un élevage qui est complètement extensif et sans intrants. C'est-à-dire que les crevettes se nourrissent de plancton qu'on fait pousser avec la lumière quand elles sont larves. Et après, elles sont posées dans les bassins. Et derrière, elles se débrouillent. Nous, c'est pour ça qu'on en accepte d'en faire chez Poiscaille, parce que au final, elles se nourrissent pas et donc il y a pas d'intrants, il y a pas de farine de poisson de l'autre bout du monde qui vient pour les nourrir.
C'est l'un des seuls ou le seul produit d'élevage que vous acceptez dans les casiers de la mer.
En crustacés, il y a les coquillages bien sûr, mais ouais. Mais d'ailleurs, j'ai l'info, on vient d'en mettre là en ligne sur le site. Donc si vous voulez aller sur la boutique Poiscaille, abonné pas abonné, vous pouvez en réserver. Dès maintenant, attention, il n'y en a pas beaucoup.
Et il faut préciser quand même que c'est un produit confidentiel, au volume d'abord extensif, au volume très restreint. On est donc sur un produit de luxe. Hein.
Quelques centaines de tonnes, si vous le trouvez à 60 euros le kilo ou 30 euros le kilo à la côte, hein, sur le marché de Royan, vous en avez assez souvent. Pareil, hein, on en consomme un peu moins et on en consomme quelques fois dans l'année maximum, au lieu d'en faire un produit quotidien comme ces grosses gambasses de l'autre bout du monde.
Cette crevette impériale des marais, on la trouve aussi sur les étals locaux, hein, en Charente-Maritime, chez certains chefs parisiens aussi, évidemment, mais également à moins de 40 km des bassins d'Ingrid et David Mercier, dans les cuisines du chef Jérôme Dallet, qui tient avec sa femme Coralie le Diraison, le Dallaison, une table gastronomique qui a rouvert le 15 juillet dernier dans une très belle demeure de Sainte. Au menu, velouté de carottes et crevettes impériales.
Donc là, j'ai mes belles crevettes de la ferme marine d'Artouan. Donc là, je sépare les têtes des queues. On les reçoit vivantes. On les place une quinzaine de minutes au congélateur, histoire de les endormir gentiment, pour pouvoir ensuite les décortiquer à cru. Et là, ce qu'on va réaliser, c'est le bouillon. Carottes, ail, citronnelle, oignons et mes têtes de crevettes.
Donc vous mettez le tout dans une casserole.
Voilà, huile d'olive. Et on va faire revenir ça gentiment. Nos têtes de crevettes, notre garniture aromatique, sont bien colorées. On va pouvoir déglacer avec un verre de vin blanc. Et pour gagner en acidité également. Donc là, on va faire réduire à sec maintenant. Et on va venir mouiller à hauteur avec de l'eau. On va tailler nos carottes très finement à l'aide d'une mandoline ou d'un couteau avec un peu de beurre. Et on va pouvoir lancer nos carottes.
C'est une autre casserole. Là, vous mettez un petit peu de sel.
Un peu de fleur de sel, du marais d'Artouan également. Et là, je vais les cuire à couvert. Là, on va venir presser notre garniture qu'on a mis dans notre passoire pour récupérer vraiment tout le goût qu'on peut retrouver dans les têtes de crevettes. Et on va finir la cuisson comme ça. Nos carottes sont cuites. On va mettre tout ça dans notre mixeur. Donc là, on est vraiment sur une consistance veloutée, presque purée. Hein. Là, je fais chauffer mon huile. Voilà.
Là, vous mettez dans la poêle, avec l'huile d'olive, vous mettez les queues de crevettes.
On va les laisser 20 secondes de chaque côté. Là, on est vraiment mi-cuit. Ce velouté, on va venir le mettre au fond de notre assiette.
Et vous mettez les crevettes sur le velouté.
Et on a également de la salicorne, également des marais. Voilà.
On va la goûter.
Ben, bien sûr.
C'est ce curieux mélange entre le velouté qui est doux,
oui,
et le craquant de la crevette.
On a travaillé le produit de A à Z et on l'a accompagné d'une carotte.
Comme il a dû se régaler, notre reporter Stéphane Combe avec ce velouté de carottes et crevettes impériales, une recette signée Jérôme Dallet, le chef du Dallaison à Saintes. La recette est en ligne sur franceinter.fr à la page On va déguster. Preuve, encore une fois, mais ça c'est vraiment l'un de vos mantras, l'un de vos credos, Charles Guiriec, on ne jette rien dans la crevette, à plus forte raison si c'est une crevette de bonne provenance.
Et si ça coûte cher, effectivement, en fait, il n'y a pas grand chose à manger dans la crevette. Si on mange que la queue, qu'on décortique tout, à la fin, ça fait beaucoup de déchets. Donc d'abord, on suçote les têtes. Je vous invite à
Allez,
le faire là en direct, à nous montrer comment on fait.
On a un stock de têtes sur notre assiette.
Ça va faire voilà. Un bruit très sexy.
Et voilà, donc moi, toutes les têtes que j'ai récupérées et les carapaces, tout ce qu'on a, on reprend dans les assiettes à la fin. On met à cuire vite fait à la poêle avec un peu de beurre et on infuse 2 jours, si on peut. On laisse les têtes dans le bouillon pour que ça diffuse bien. Et
deux
là,
jours.
Je vous ai poché des champignons crus avec et quelques herbes. Et ça donne du goût. Et sinon, ça renforce pas assez le goût si on laisse pas assez longtemps.
Coriandre fraîche.
Coriandre fraîche.
Ce qui est délicieux, c'est que vous avez versé dans ce petit bol. Ah ouais, on sent vos origines bretonnes. Hein. Le petit bol à la bretonne.
Le bol à oreille.
Oui, c'est ça, le bol à oreille. Le bouillon a en quelque sorte saisi le champignon de Paris, mais qui reste encore un peu charnu.
C'est ça.
Et par ailleurs, la sapidité, la profondeur d'un bouillon de crevette. Alors, on emploie un peu à toutes les sauces umami, mais on est quand même carrément
là,
dans l'umami.
Hein.
Bah, quand on laisse bien, c'est fort. Moi, j'aime beaucoup. Et puis après, on peut même le beurrer, le crémer. Enfin, voilà. Au moins, on récupère tout ce qu'il y a et on ne jette rien. Parce que oui, c'est des
animaux vivants. Mais c'est un investissement qui peut être rentabilisé si on consomme
un deuxième repas pas cher.
Et j'ai l'impression que les têtes concentrent aussi une certaine sucrosité. Enfin, il y a quelque chose de presque d'une confiserie de la mer, en quelque sorte.
Ouais, c'est vrai.
C'est le sucre d'orge de la mer, hein,
on peut
la
dire.
Tête de crevette.
On va faire bientôt une glace à la crevette. Alors,
ouais, ça va pas tarder, ça peut donner des idées à des chefs qui nous écoutent. Elvira, pas mal de réactions sur
pas mal de partage de recettes. La crevette inspire beaucoup nos auditeurs et auditrices. Steve de Gênes-sur-Seiche nous partage sa recette de fumet très facile à réaliser, justement, en utilisant tous les déchets, têtes, etc. À saisir au beurre, comme Charles, à écraser, on ajoute de l'ail, on déglace au vin blanc.
C'est ça.
On ajoute de l'eau, un peu de céleri, carottes, oignons, nos aromates préférée, on laisse réduire. Alors, il n'indique pas si c'est 48 heures.
Je vous ai mis que de l'eau, mais on peut mettre un petit peu de vin blanc aussi.
Et nous précise que c'est extra pour une base de sauce ou pour un risotto, par exemple. Un risotto de la mer avec un fumet de poisson.
Et enfin, en fin de saison, comme on arrive février-mars avec les premières asperges, vous faites cuire les asperges dans ce bouillon-là avec du beurre.
Très bonne idée, on attendra le printemps pour les asperges. Hein. Sinon, il y a l'option asperges du Chili, hein, mais je sais que vous les adorez.
Dès qu'on va à l'équateur.
Ah bah justement, moi là, je vous emmène au Mexique avec Sarah qui nous demande si on connaît l'aguachile, ce ceviche qui provient de l'état de Sinaloa Mexique, qui est un délice. Hein, et une recette à base de 4 ingrédients, crevettes crues, jus de citron vert, beaucoup, concombre et oignon rouge. C'est un délice. Hein.
Et le vuelbe à la vida aussi, je crois, un ceviche avec tous les poissons. Ouais. Mais là, on est sur des crevettes sauvages, pêchées, en bord de mer, près des mangroves.
Et le cru est une option de dégustation pour les crevettes quand elles sont fraîches.
Ah, carrément une option.
Il y a une autre texture et un autre goût.
Ah bah oui, à décortiquer directement ou à congeler quand vous en avez, si on avait une belle quantité.
Ça supporte bien la congélation.
Il faut les surgeler vivantes, vite fait. Et après, on les décortique. C'est celles que vous avez là. C'est des gambas de la ferme marine que je vous ai décortiquées avec plein de petites herbes, une petite huile d'olive corse, du citron caviar. Mais alors là, c'est exceptionnel parce que j'en ai trouvé sur le marché de Bastia. Et j'en ai ramené quelques-uns.
C'est 100% corse, l'assiette,
là, non ? Il est breton, Charles Guiriec, mais il devient de plus en plus méditerranéen.
Oh là, attention, qu'est-ce que vous dites, là ?
On voit de plus en plus en Corse, à Bastia, avec ses amis pêcheurs. C'est très bon signe, vous évoluez très bien, Charles. On vous félicite. On va passer, évidemment, à la phase liquide de cette émission, avec une cuvée qui est plutôt saline, mais pas tellement sur le littoral, et qui pourrait faire une très belle escorte avec les crevettes de Charles Guiriec. C'est la chronique de Justine Knapp.
On va déguster sur France Inter.
Chère Justine, vous avez cherché un accord avec la crevette et vous vous êtes, comme je le disais, éloignée du bord de mer.
Oui, notre envie spontanée avec des fruits de mer, c'est d'aller plutôt vers une cuvée maritime, un muscadet bien ciselé, par exemple.
C'est la figure imposée presque.
Tout à fait, et ce serait une excellente idée. Hein. Mais pour cette fois, on va s'enfoncer dans les terres vers un vin puissant. Alors puissant en agrumes, en fruits exotiques. Le genre de vin charismatique qui a tendance à prendre beaucoup de place. C'est un peu risqué pour aller avec la crevette, mais je vous laisse le goûter si ce n'est pas déjà fait. Donc début de gorgée plutôt tendre, hein, confortable le début de gorgée. Et très vite, vous allez voir une claque d'acidité. C'est tranchant, très salivant et salin. Assez finalement pour rejoindre le charnu et l'iode de la crevette. Est-ce que voilà, ça fonctionne pour vous comme ça à l'aveugle, sans connaître l'origine du
vin?
Moi
j'aime beaucoup, il y a effectivement du volume, peut-être un tout petit peu d'exubérance et c'est formidable. Et ensuite, il y a une trame droite et saline.
Ouais. Mais les crustacés, c'est fort, donc c'est pas mal. Ça va,
il faut du caractère quand même.
Ouais, et puis c'est vraiment, c'est salivant, ça fait saliver.
Tout à fait. Alors, effectivement, cette cuvée qui est, je trouve, super tonique. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle vient de Jurançon, qui est le royaume des vins moelleux, des vins sucrés. Donc, on est dans le sud-ouest, hein, bien au sud, les Pyrénées en toile de fond. Beaucoup d'ensoleillement, des vents chauds à l'automne. Autrement dit, c'est la recette idéale pour les moelleux, pour que les raisins se concentrent bien en sucre. Mais c'est tout l'inverse de cette cuvée.
On a donc affaire, Justine, à un vin sec, sans sucre et à moins de 13 degrés.
Oui, ce qui fait la différence, c'est l'emplacement un peu particulier des vignes. Le domaine s'appelle le Clos Larouillat. Il est tenu par deux trentenaires, Lucie et Maxime Salaran. Maxime, qui était seul au départ en 2011, il a replanté les terres de son grand-père. Il a choisi les cépages des moelleux, les stars locales, hein, le petit et le gros mansin. Pour lui, à ce moment-là, c'est évident. Il va faire du moelleux comme tout le monde. Jurançon, voilà, c'est du moelleux. Et finalement, sa première cuvée, elle est recalée pour l'appellation.
Pas assez de sucre.
Il n'y a même pas besoin de goûter. Le taux d'alcool, il est trop bas. Pourquoi ? Parce que chez Lucie et Maxime, les raisins ne mûrissent pas si facilement. On n'a pas d'exposition au sud, hein, comme la majorité du vignoble. Il n'y a pas donc ce soleil intense de fin de journée. Et en plus, ils ont un sol unique à Jurançon, un sol de marne sur Trias. Donc c'est lui, hein, qui laisse cette petite note saline en bouche une fois qu'on a bu notre gorgée. Mais surtout, ce sol, il fait encore baisser les degrés alcooliques. Donc ce terroir, il est fait pour les secs, hein. Lucie et Maxime s'y sont mis rapidement. Et c'est bien tombé parce que le vignoble de Jurançon, il prend ce pli depuis 20 ans. Le sucre a moins la cote chez les buveurs et les buveuses.
Nos palais vont plus facilement vers moins de sucre, vers de la fraîcheur, vers de la tension.
Et oui, et l'identité locale en pâtit un peu. Maxime me disait que le moelleux, il a tendance à se faire écarter de la table. C'est plus difficile pour la clientèle de l'imaginer autrement qu'à Noël.
Alors qu'on a quand même des vins superbes, qu'on peut accommoder facilement sur le fromage, avec des persillés ou même à l'apéritif. Vive quand même les vins moelleux.
Oui, tout à fait. Mais surtout quand il y a un tel équilibre acidité-sucre, comme c'est le cas à Jurançon, les vignerons et les vignerons se sont malgré tout adaptés. Ils sont une soixantaine d'indépendants. Plus de la moitié de leur production, c'est maintenant du Jurançon sec. Alors, pour répondre au marché, mais aussi pour découvrir une autre expression des terroirs. Sauf que garder des vins frais et pas trop chargés en alcool avec ce climat, c'est un casse-tête. L'appellation projette du coup de revoir sa délimitation. L'idée serait de s'étendre à des terrains comme ceux de Lucie et Maxime, un peu moins exposés au soleil au nord ou à l'est.
Vous nous rappelez, Justine, les références de cette cuvée ainsi que son prix?
Cette cuvée qui a disparu par ailleurs.
Oui, je ne sais pas où elle est passée. Ça y est, on a compris. Que se passe-t-il là, Charles? Parce qu'on entend beaucoup de bruit sur la plaque de cuisson.
Bah, j'ai poêlé les gambasses de la ferme marine et celle de Bigouya.
Bien gérable.
Et avec un
il prend les manettes de l'émission.
Vous nous en gardez un peu quand même.
On va déglacer juste un petit peu parce qu'il se boit tout seul, il ne faut pas trop le gâcher dans la poêle. Et là, bah, voilà, il n'y a plus qu'à... Il n'y a plus qu'à mettre les doigts dedans et vous avez des serviettes. Et
mais c'est ça, à l'apéro, c'est toujours ça. Quand il y a une bouteille ouverte, allez, une petite rasade pour déglacer quelque chose, en général, ça ne contrarie pas le vigneron. Hein.
Voilà,
c'est simplement quelques centilitres.
Donc la cuvée, c'est la cuvée Météor. Elle coûte 18 euros, elle est certifiée bio. La certification pour la biodynamie est en route, ce sera le label Biodivin. Ils ont aussi un autre Jurançon sec délicieux et un Jurançon moelleux. Ça y est, ils parviennent maintenant à l'atteindre, mais tout juste. Gustativement, la cuvée reste quand même plus proche d'un demi-sec, toujours très affûté avec ce terroir tardif. Au Clos Larouillat, les vendanges ont pris fin mercredi. C'est très tard dans la saison. C'est pas peu dire que le raisin met du temps à mûrir chez eux. Juste après, on aura des moutons qui prendront le relais dans les parcelles, histoire de gérer la pousse de l'herbe et d'enrichir naturellement les sols cet hiver.
Un fonctionnement similaire à celui des crevettes impériales dans les bassins ostréicoles de Charente, en fait. Coopération...
Exactement. L'un prépare les lieux pour le suivant. Les crevettes avant les huîtres, les moutons avant les raisins. Et je précise bien avant, sinon les moutons grignotent. Le sucre de Jurançon, eux, ça leur va très bien.
Merci beaucoup pour cette découverte, Justine Knapp. Vous allez nous servir votre petite poêlée,
allez,
cher.
C'est voilà. Prêt, je l'ai gardé au chaud.
Cher Charles, et justement, le temps d'une petite pause musicale. Hein, on va voir dans un instant. Alors, ça va s'assombrir un peu le tableau. Hein, le revers de la médaille de notre consommation de crevettes, c'est juste après une petite escale musicale au Brésil.
Próprio sonho é por poder sonhar amor. O sentido vai pintar, a ilusão faz parte de se apaixonar. A cara e a coragem que a esperança. Azul moderno, fundo mais fundo do mar. Hora de deixar voar, de estar desprevenido para o que pode chegar.
Mystificar de Tim Bernardes, la nouvelle voix d'or de Sao Paulo, Brésil. Alors là, on déguste pas une moqueca de camarão de crevettes, mais la petite poêlée de crevettes où vous avez donc associé la ferme des marais, la crevette des marais de la ferme marine d'Artois. Avec les bigoulias, les crevettes bastiaises.
On les a poêlées ensemble, juste avec de l'huile d'olive, un peu d'ail au début, les pelures d'ail, les queues de persil.
Ça va, Vera, vous voulez un petit rasoir ?
Non, ça va, je suis bien là.
Et puis, on met à la fin, tout à la fin, le persil, toutes les herbes qu'on a. Là, on avait un peu plein de choses, donc on ne va pas les détailler. Mais ce que vous avez sous la main qui est frais. Et puis là, on a déglacé. On pourrait même mettre un petit bout de beurre à la fin pour faire. Comme ça, je me réconcilierai avec mes racines bretonnes.
C'est ça, voilà, parce que là, il commence à se prendre des mails d'insultes. Justine, vous nous confirmez que ça se passe bien entre le jurançon demi-sec et ses crevettes ?
C'est parfait. En fait, je repense à ce que vous disiez sur la sucrosité des têtes de crevettes. Là, je le retrouve dans la chair, ce côté-là, et avec le vin qui arrondit un petit peu les angles, et puis paf, la petite claque à la fin.
Et puis la longueur
en bouche, encore une fois, et cette salinité en fin de bouche, c'est vraiment extraordinaire. On se régale. On va vraiment se régaler, là, car la crevette n'est pas toujours très rose, loin s'en faut.
On va déguster. Sur France Inter.
Je pensais jamais rentrer dans des soirées sélectes. Open bar, je me sers un toast avec une grosse crevette. Pêché par un chalutier à l'est de Madagascar. Qui détruit la barrière de corail sur son passage. Qui fait que les pêcheurs ont plus de travail. Ils ramènent rien aux villageois qui ont plus rien à grailler. Vu que leurs crevettes sont devant moi.
Ah, on vous avait dit qu'on allait casser l'ambiance. Charles Guerrier, vous nous avez mis sur la voie. V-O-I-E et V-O-I-X de...
Orelsan.
On l'a tous reconnu avec un titre poétiquement appelé « Baise le monde ». Sur son album « Civilisation », il évoque donc, si on a bien suivi les paroles, un toast avec une grosse crevette dans une soirée sélecte. Et Orelsan a comme un flash de lucidité, teinté d'une petite pointe de culpabilité sur l'origine lointaine de sa crevette. Crevette de Madagascar, destruction des écosystèmes, etc. etc. Est-ce que c'est une réalité vraie, j'ai envie de dire ?
C'est une réalité. La plupart des crevettes donc importées, il y a deux manières de les produire. Soit de la pêche sauvage, mais on est surtout sur du chalutage en zone côtière. Donc là, on attrape beaucoup d'espèces dans les herbiers, des petits poissons, des tortues marines, qu'on arrive à remettre plus ou moins vivantes à l'eau. Donc déjà, il y a ça.
Et des conditions de travail.
Conditions de travail, là, si on regarde ça, le tableau est Wilson encore plus coupable. Et l'alternative qu'on a trouvée, c'est donc élever les crevettes en creusant des bassins. Mais malheureusement, dans beaucoup de cas, on a creusé les bassins sur les mangroves, qui sont des milieux essentiels pour le développement, pour lutter contre le changement climatique, pour capter du CO2. Et aujourd'hui, on a des bassins carrés, et dans pas mal d'endroits, on met de la nourriture qui vient de l'autre bout du monde. Donc au final, ça fait beaucoup de choses qui, au bout d'un moment, si on rajoute le fait que parfois on met des additifs dedans, etc., moi, j'ai pas spécialement envie de manger.
Il n'y a pas d'élevage de crevettes vertueux.
Il y en a.
On a vu que la crevette impériale des marais pouvait l'être, mais dans des volumes très confidentiels.
Dans cette zone-là du monde, dans l'océan Indien, enfin.
Alors, il y a du bio, mais pareil, c'est nourri avec de l'aliment qui peut venir de loin, où on ne sait pas trop. ASC fait un travail pas trop mal. Donc, si vous craquez sur une crevette, voilà, effectivement, une bio de Madagascar, une ASC.
Une
crevette ASC, donc c'est l'équivalent à l'aquaculture du MSC, mais ils sont pas liés. Donc, j'ai compris que leur boulot était quand même plus poussé. J'ai regardé un cahier des charges d'une crevette du Nigeria où il disait il n'y avait pas de mangrove avant là où ils ont installé les bassins. Donc il y a des démarches pas trop mal. Il n'empêche que moi je préfère ne pas en manger et juste à l'occasion je tombe dedans au marché, j'en achète. Et puis voilà, si vous êtes parisien, les marchés de Thalassa Distribution, vous allez sur leur site, ils ont une dizaine d'adresses et il y en a quasiment toutes les semaines. Donc on peut en trouver. Mais on limite un peu sa consommation de grosses gambas lointaines.
On peut en trouver en menant l'enquête. En fait, trouver des produits vertueux comme des crevettes, c'est quand même du boulot pour le consommateur en plus. Il
faut mais c'est un véritable casse-tête.
C'est du boulot ou c'est de l'ouverture d'esprit. Vous allez sur le marché à Rennes, à Royan, vous baladez, hop, il y en a. Allez plutôt
Rennes,
vers ça.
À Royan, oui. Voilà. À Paris, à Lyon, moins, je pense.
Et moi, Poiscaille.fr.
Et quand il y en a, il fait sa promo au passage. Écoutez bien, la production mondiale de crevettes représente environ 3,6 millions de tonnes. La Chine représente 1,3 million de tonnes, une pêche essentiellement destinée à sa consommation locale. Et ensuite viennent les plus gros producteurs que sont l'Inde, l'Indonésie, le Canada, les États-Unis et le Vietnam. Pour ce qui est du marché français, on l'a dit en début d'émission, 100 000 tonnes de crevettes consommées par an. Et sur ces 100 000 tonnes, il y a environ 500 tonnes de crevettes bien de chez nous, sauvages.
Allez, on va arrondir, mais c'est pas beaucoup plus
c'est
que ça.
C'est quand même pas grand chose. Et pour le reste, effectivement, ça vient souvent de l'autre bout du monde, avec comme premier pays producteur dont on importe les crevettes, c'est l'Équateur. Avec 36% des comètes que l'on consomme.
L'Équateur, l'Inde, Madagascar, la crevette grise, malheureusement, c'est Pays-Bas chaluté. Donc vous avez peut-être entendu parler des Pays-Bas pour la Seine Demersal, le chalut électrique. Moi, j'ai pas trop envie d'acheter ces crevettes-là. Et je préfère aller les pêcher moi-même ou les trouver de temps en temps vivantes. Ou, dans le pire des cas, la production de crevettes grises, c'est 7% de la consommation à peine. Oui, c'est pêché au chalut, dans les zones côtières, sur les côtes des Hauts-de-France. Mais à la limite, il faut mieux acheter ça, bien payé. Vous avez des pêcheurs aujourd'hui qui nous disent « Je ne pêche pas la crevette dans mes étangs salés en Méditerranée, dans le bassin d'Arcachon, parce que j'ai pas de débouché. » Parce que c'est très fragile, il n'y a pas forcément la filière derrière. C'est vraiment dommage. Alors qu'à côté, on mange au même endroit ces crevettes importées de loin. Oui, on paye un peu plus cher, mais on sait ce qu'on soutient avec cet argent-là.
Vous m'avez également alerté sur un problème parfaitement ignoré des consommateurs et qui est pourtant là encore une réalité. C'est cet additif qui permet de garder les crevettes roses. Que se passe-t-il sur les étals ?
Alors, vous voyez, là, j'ai une crevette, alors on la voit pas, mais vous pouvez la décrire, qui est noire. C'est juste une crevette qui a été cuite avant-hier, pas trop cuite, et en fait, elle noircit. Un peu comme le jambon non nitrité qui noircit. Donc pour attirer le consommateur, parce que c'est pas très joli a priori, même si moi je trouve que c'est plutôt un gage, si vous trouvez des crevettes noircies, allez-y, achetez-les. On met du métabisulfite, ça me fait penser au sulfite qu'il y a dans les vins, et je regardais les cahiers des charges, c'est 150 mg par kilo de matière consommable. Donc ça veut pas dire de crevettes, ça veut dire plus que ça. On parle des vins sulfités à plus de 200 mg et en disant c'est beaucoup trop, ça fait mal à la tête. Et il y a des gens qui nous disent, moi j'ai mal à la tête quand je mange des fruits de mer, notamment des crevettes. Donc il y a ça. Et ça, on l'indique, contient des sulfites.
On l'indique parce que pour abonder dans le sens d'Albira, il n'y a rien sur les étiquettes.
C'est pas mis, évidemment, comme sur les bouteilles de vin, vous n'avez pas forcément, c'est marqué pas en très très gros ou sur votre caviste, contient des sulfites.
Au moins,
c'est indiqué.
C'est indiqué sur l'étiquette d'un vin. Là, on sait à quoi s'attendre. En l'occurrence, il y a la provenance, le prix sur les étiquettes des crevettes
chez le poissonnier. Il y a le mode de pêche aussi.
Il y a le mode de pêche.
Le contient des sulfites n'est pas présent sur un étal, il va être présent sur une barquette quand vous achetez, mais je ne conçois même pas d'acheter des crevettes en barquette.
Et les sulfites, au-delà de les garder roses, ça permet de les conserver, j'imagine, plus longtemps.
C'est surtout la couleur. Je pense pas que ce soit un sujet de conservation. Après, il y a d'autres additifs qui peuvent être mis, notamment de la saumure, c'est-à-dire qu'on garde les crevettes dans de l'eau et de sel, elles se gonflent un petit peu. Après, on voit tourner sur Internet des vidéos un peu catastrophes de collagène injecté dans les crevettes qui les fait gonfler. Je sais pas si c'est la réalité de toutes ces crevettes-là, mais il y a des trucs pas très clairs. Et c'est des produits qui viennent de loin, avec des transparences qui sont parfois discutables.
Mais l'occurrence des sulfites est très fréquente. C'est-à-dire que si je vais chez le poissonnier et que les crevettes sont roses et cuites...
Elles ont été cuites ultra fraîches il y a moins de 24 heures. Ça, c'est pas impossible, mais c'est extrêmement rare. Moi, j'ai fait l'expérience avec des crevettes de la ferme marine d'Artois, que j'ai bien cuites cette fois. Le noir, il est arrivé au bout de 48 heures. Sans mettre de sulfite, j'en ai pas mis dans mon eau.
On imagine.
J'ai mis juste du gros sel. Et donc, en fait, voilà, une crevette très fraîche, cuite à l'instant, et mangée encore tiède, allez-y, c'est génial. Mais de là à en trouver des gambas importées noires, c'est rare.
Et ce noir, il est pas uniforme, on voit un petit peu sur la crevette.
Oui, ça fait comme des zébrures.
C'est au niveau des branchies, surtout, en fait, que ça se développe. Vous voyez là, si on enlève, en fait, en dessous, la branchie va être oxydée comme les branchies d'un tourteau. Quand vous l'avez décortiqué, si vous le laissez un peu au frigo, il a tendance à changer de couleur. Mm-hmm. C'est la même chose. C'est au contact de l'air, il se passe quelque chose. Alors, je vous donnerai pas la réaction chimique exacte. Mais en tout cas, crevette trop rose égale attention.
Et crevettes pas très roses, du coup. On va à présent plonger dans un temps où Elvira avait 20 ans. C'était évidemment il n'y a pas très longtemps.
On va déguster. Sur France Inter.
Il y a 15 jours, à ce micro, François-Régis, vous rendiez hommage à Elisabeth Scotto, journaliste culinaire qui a tant fait avec ses sœurs Michel Carle et Marianne Comoli sous le nom des sœurs Scotto pour rendre la cuisine joyeuse, inspirée, ouverte d'esprit, surtout, au fil d'une quarantaine de livres passionnants, mais aussi en son nom et à la tête des fameuses fiches cuisine duel. Alors j'ai eu envie de poursuivre l'hommage aujourd'hui parce que son décès, il y a 15 jours, donc, a fait remonter beaucoup de souvenirs en moi. J'avais 20 ans et un petit ami qui cuisinait pas mal du tout. Peu de temps après notre rencontre, il m'a avoué la source de son inspiration culinaire. C'était ce livre, publié en 96, Gourmand dépressé, 200 recettes et 52 menus chez Hachette. C'était l'un des titres phares de cette collection qui comptait également un Gourmand des créoles, signé...
Ah, Suzy Palatin,
évidemment.
Il est extraordinaire ce bouquin.
Un aujourd'hui impensable gourmand des minces, mais aussi, il fallait l'inventer celui-là, gourmand des en week-end, signé Françoise Bernard.
Non, oui. Je ne connaissais pas, Véridique. Il m'a échappé celui-là.
Ce dernier, ainsi que le gourmand des pressés que j'ai perdu, je les ai empruntés à Déborah Dupont de la librairie Gourmande. Ce sont donc ces exemplaires à elle, car ces titres sont épuisés, malheureusement. Ce livre, qui était donc la bible de cet amoureux de l'époque, est devenu la mienne. C'était un livre, c'est toujours un livre sans photo, ce qui n'est pas fait pour séduire les cuisiniers néophytes, et pourtant tout y était séduisant. La simplicité des recettes, leur variété, leur efficacité, voire leur inratabilité, leur pas de côté aussi. Qu'est-ce que j'ai pu faire comme bœuf à la citronnelle, gâteau d'amande au pignon, petit sauté au chou chinois, spaghetti alio et olio, dorade laquée au sésame. Parce que voilà, le charme des sœurs Scotto tenait à ces chemins de traverse qu'elles empruntaient, à ces hommages rendus à l'Italie mais aussi au Japon et à bien d'autres cultures d'Asie. C'est une sorte de port d'entrée qui permettait à la cuisinière inexpérimentée et passablement nulle que j'étais à l'époque de se dire « Intéresse-toi à d'autres cultures que la tienne, le voyage commence et ça va bien se passer ». Sur son blog épatant qu'Elisabeth Scotto a alimenté jusqu'au mois d'octobre de l'an dernier, elle écrivait « J'aime les accords qui enchantent, les épices qui réveillent un plat ronronnant, les aliments et les ustensiles découverts tout près de chez moi ou au bout du monde. Bref, m'amuser avec la nourriture. » L'une de ses recettes préférées, c'était des linguinés nippones, une sorte de bricolage qui fait le pont entre l'Italie et le Japon et qui réunissait ses deux passions donc. À base de légumes verts, haricots coco, plats émincés, haricots verts, fleurettes de romanesco, cuits dans un bouillon d'hachi. Elle ajoutait du gingembre râpé, une gousse d'ail, du piment, et elle cuisinait des linguinés, elle mélangeait tout ça. Et elle assaisonnait de graines de sésame noir et d'algues nori ciselées. À l'époque, en 96, je ne devais même pas savoir ce que c'était que le dashi, ou à peine. En revanche, je pratiquais beaucoup les crevettes au gingembre des sœurs Scotto.
Et ben voilà.
Des crevettes roses, cuites, décortiquées, servies avec cette sauce que je vous ai préparée. Mmh. Un coulis de tomates nature, agrémenté de gingembre frais râpé, tout ça revient assez doucement, avec des oignons. Et on parsème de coriandre fraîche. J'ai oublié de mettre la coriandre fraîche.
Mais c'est pas grave, c'est même très bon comme ça, je peux vous le dire. Allez, on va se faire quelques peluches de coriandre feuille.
À l'époque, je suis pas sûre que je me posais beaucoup la question de la provenance des crevettes. Et j'avais oublié cette recette simple et toujours délicieuse. Elle m'est revenue avec beaucoup d'émotions et les difficultés que vous pouvez imaginer pour trouver des crevettes de bon niveau, des crevettes passablement éthiques. Et j'ai fini par tomber au marché à côté de chez moi sur des bouquets bretons. Alors, elles me paraissent un peu petites avec ce que je viens d'apprendre en début d'émission, ces crevettes bouquets.
Charles,
si, c'est joli.
Ah ouais,
là,
c'est des bouquets quand même.
Oui, on est quand même sur plus de 5 cm.
On est bien. Hein.
Bon, c'était 12 euros les 100 grammes, bim. Mais en préparant ces crevettes au gingembre, mes 20 ans me sont revenus. Je me suis dit que 12 euros les 100 grammes pour avoir 20 ans, c'est pas si mal.
Génial. Elle est extraordinaire, cette recette, avec
elle est typique des sœurs
Scotto. Le côté acidulé de la sauce tomate très gourmande, la fraîcheur légèrement piquante du gingembre frais.
Et la facilité d'exécution, la simplicité et l'inratabilité des sœurs Scotto.
Justine, séduite ou pas?
Ah ben oui, à tel point que la coriandre, il me restait une crevette pour l'ajouter, j'avais déjà tout mangé. Ça me donne envie un peu de manger un bol de riz chaud.
Ouais,
fumant,
il manque un peu de riz, ouais, c'est ça.
Super bon.
Il avait bon goût le petit copain de vos 20 ans, Elvira. On rappelle les références.
Gourmande et pressée.
Elle devient toute rouge. Je sais pas ce qui se passe. Gourmande et pressée, les sœurs Scotto, hommage encore évidemment à Elisabeth Scotto. 200 recettes et 52 menus aux éditions
Hachette. Et on le trouve en ligne, malheureusement, il est épuisé. Et je vais rendre à Déborah son exemplaire.
Ah non, on va le garder en fait. Merci beaucoup Déborah pour ce beau cadeau. Charles Guerriec a son casque micro, il est devant la plaque de cuisson. Et qu'est-ce que vous faites là? Racontez-nous.
Bah là, je vous poêle les bouquets bretons au beurre.
Oui.
Donc là, le beurre, il est en train de chantonner. Je mets un couvercle dessus, attention, prévoyez le couvercle parce que ça saute si vous les avez ramenés du marché vivante, donc sinon vous allez en mettre un peu partout. Et puis là, on secoue ça au beurre tranquille.
Mmh. Ah oui, du beurre.
Ah oui, du beurre pour retrouver la
Et c'est vraiment une affaire, le snackage, c'est une affaire de quelques minutes. Hein.
Bah là, on va pouvoir les manger assez vite. Alors elles sont assez grosses, donc on est plutôt sur des bouquets que sur des crevettes. Donc vous voyez, elles changent de couleur là direct. Et puis là, on les retourne.
Qu'est-ce qui se passe, Charles Guerriec, lorsqu'une crevette est trop cuite en termes de consistance?
C'est un peu trop ferme, moi, à mon goût. Mais surtout, le plus gênant sur les crevettes, c'est si on la mange et qu'elle est pas assez, qu'elle a été cuite morte. C'est là où on va avoir une chair cotonneuse qui est désagréable. Si elle est morte il y a quelques minutes, ça va. La consistance restera. Trop cuite, faut vraiment y aller, faut vraiment forcer. Mais c'est assez rare, quand même.
Il y a Bernard de Saint-Chamond qui nous demande ce qu'il faut penser de cette fameuse osso bio de Madagascar qui lui a été présentée par son poissonnier comme vertueuse. Alors c'est vrai que c'est une crevette d'un certain calibre, elle est particulièrement charnue, elle est aussi très chère, il faut bien le dire. C'est
45 euros,
le kilo. Alors c'est une crevette d'élevage, elle est biologique, celle-ci précisément.
Elle est élevée à la place d'anciennes mangroves qu'on aimerait bien retrouver pour préserver les mérous et les carangues de Madagascar ou les crevettes sauvages. Elle est nourrie avec du poisson qui vient de l'autre bout du monde. Alors oui, les produits autres qu'il y a dedans sont certifiés. Oui, il y a des densités inférieures. Alors c'est le moins pire. À la limite, si vraiment vous avez que ça sous la main et vous êtes en panne de crevettes, mais mangez de l'araignée de mer plutôt, à la limite, ou un tourteau, quoi. Vous aiderez des pêcheurs français qui ont du mal à valoriser leur araignée de mer, alors que c'est un peu de boulot de décortiquage. Mais bon, pour faire les choses un peu mieux, il faut un peu bosser.
Certains auditeurs nous demandent qu'ils ne comprennent pas grand-chose aux saisons. Quelles sont pour la crevette française, si on se limite à l'Atlantique, c'est quand même là, du golfe de Gascogne jusqu'à la Manche, où on trouve des crevettes sauvages qui sont pêchées. C'est quoi les saisons auxquelles il faut s'attacher?
En gros, pour le bouquet breton, il faut faire de fin août à fin mars, a priori. C'est le pic de pêche, c'est pêché au casier, c'est hyper vertueux, donc on est dans cette saison. Les fameuses gambas impériales de Marraine, le pic de production, c'est entre début septembre et fin octobre, quoi. C'est les vendanges, quoi, quasiment, on va dire, à peu près.
C'est ça.
Et les crevettes grises, on en a un petit peu toute l'année. Mais pareil, plutôt période hivernale que période estivale.
Voilà, on privilégie les crevettes françaises. Il y avait une petite recette.
Il donne une petite recette pour la route. Allez. De Martin Boutillier qui nous parle d'une salade de crevettes avec du fenouil détaillé, haché, des pommes Granny Smith, de la mangue, des crevettes assaisonnées de jus
de
citron.
De la mangue bien de chez nous.
Ouais, non, pardon.
De
la mangue corse.
On vous excuse.
La mangue corse.
Oui, c'est vrai.
Ou espagnole.
Citron et coriandre, un régal. Et beaucoup de poivre.
En voilà une très belle idée. Un grand merci Charles, on va se régaler de vos crevettes que vous venez de faire poêler. Merci beaucoup. Je rappelle que Poiscaille, c'est votre circuit court de la mer, avec ou sans crevettes, mais il paraît qu'il y en a en ce moment.
Il y en a en ce moment, il ne faut pas traîner.
On va se jeter dessus. Un grand merci, à la prochaine pour une autre thématique marine, évidemment. La semaine prochaine, la cuisine de Sébastien Bras à l'aïeul. Il sera notre invité, Sébastien Bras, pour sa leçon de cuisine. Jérôme Gagnès et Zazie Tabitian seront dans les fauteuils des chroniqueurs. À bientôt, Justine Knapp.
À bientôt.
Au revoir, Elvira. À la
bon
prochaine.
Dimanche.
À dimanche prochain. Si vous avez encore faim,